Radio Okapi.
Il est 15h à Kinshasa, 16h à Butembo, au Nord Kivu. Voici les titres de votre journal. 10 Congolais sont morts dimanche à Khartoum à la suite des bombardements par l'armée soudanaise sur le campus de l'Université internationale d'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères exige au nom du gouvernement des éclaircissements sur les motivations à la base de ce drame. Une mission exploratoire électorale de l'Union européenne s'est entretenue hier lundi à Kinshasa avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Cette mission a examiné en profondeur avec les dirigeants de la CENI les possibilités et les conditions d'envoi d'une mission d'observation électorale pour les scrutins à venir en RDC. L'invité de ce journal est la directrice pays de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Nathalie Kambala parle de plusieurs boîtes à plaintes placées dans les lieux publics à Kananga, au Kasaï central, pour dénoncer des cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Mesdames, Messieurs, bonjour. 10 Congolais sont morts dimanche dernier à Khartoum à la suite des bombardements par l'armée soudanaise sur le campus de l'Université internationale d'Afrique. D'autres compatriotes grièvement blessés sont admis à l'hôpital militaire de la capitale soudanaise. Le ministre des Affaires étrangères qui a reçu hier à son cabinet le chargé d'affaires AI de l'ambassade du Soudan à Kinshasa a exigé au nom du gouvernement des éclaircissements sur les motivations à la base de ces drames. Christophe Lutundula est au micro de Jocelyne Moussaou.
Nous avons demandé au chargé d'affaires que des explications nous soient données et que toutes les dispositions soient prises par le gouvernement soudanais pour que les corps soient restitués et que le gouvernement puisse les rapatrier pour que nos compatriotes soient inhumés dans la dignité conformément aux traditions aux côtés de leur famille. Par ailleurs, parce qu'on peut se demander mais pourquoi cela est arrivé, qu'est-ce que nous avions fait avant. D'aucuns se souviendront que j'avais lancé un message à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, à tous les Congolais habitant le Soudan, de se signaler à notre ambassade au Caire et à Addis Abeba, de manière à nous permettre d'assurer le rapatriement. Ceux qui se sont signalés, on a pris les dispositions sur instruction du Premier ministre. J'avais autorisé notre ambassadeur au Caire d'utiliser tous les moyens financiers à sa disposition pour rapatrier ces lots.
Notez que le conflit armé au Soudan a débuté en avril dernier entre l'armée au pouvoir dans le pays et les forces paramilitaires. Des affrontements ont éclaté dans tout le pays, principalement dans la capitale Khartoum et dans les Darfour. En Ituri, 18 personnes ont été tuées en l'espace de moins d'une semaine par des rebelles des ADF dans plusieurs villages dans les territoires d'Irumu. Face aux multiples attaques des groupes armés, les casques bleus de la MONUSCO ont établi une base temporaire à Loya pour protéger la population, affirme des sources de la mission onisienne. Des patrouilles mixtes de FARDC et forces de la MONUSCO sont intensifiées dans la région pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Des détails avec Isaac Remoyopé.
Un groupe de rebelles des ADF a attaqué les samedis les villages de Mutuyei, Bekembele et Boulessi à une dizaine de kilomètres de Komanda. 8 personnes ont été abattues et d'autres enlevées par ces hommes armés, précise l'ONG CRDH. Les dimanches, ces inciviques ont également envahi la localité de Mutei dans la même entité territoriale. 8 corps des agriculteurs ont été découverts après le retrait de ces milliers, ajoute la même source. Des autres civils ont été tués par ces ADF le week-end dans les villages de Makanga, dans les territoires de Mambasa. Ces inciviques ont également pillé plusieurs biens de la population. Pour stopper les exactions de ces groupes armés, les forces de la MONUSCO ont installé depuis lundi leur base temporaire à Loya, à 16 km de Komanda. Selon la mission onisienne, ces déploiements s'inscrivent dans le cadre des plans de réponse de la MONUSCO pour atténuer la menace des rebelles des ADF. Une autre équipe conjointe FARDC Brigade d'intervention rapide de la MONUSCO s'est déployée à Samboko pour assurer la protection des civils. Ces dispositions ont permis de réduire les violences dans ces milieux où une accalmie s'observe, affirme des sources locales. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nord Kivu, un journaliste de Byamboué dans le territoire de Lubero vit en clandestinité depuis la semaine dernière. Celui-ci s'est dit victime des menaces de mort de la part d'hommes armés présumés Mai Mai de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, IPLC. Sadiki Aboubakar pour les détails.
Dans la nuit du 1er juin dernier, des hommes armés ont investi le domicile du journaliste à son absence. Ils y ont trouvé son grand-père à qui ils ont fait savoir qu'ils étaient à la recherche de son petit-fils. Une situation qui a paniqué toute la famille et poussé le journaliste à vivre en clandestinité jusqu'à ses jours. Le 23 mai dernier, le journaliste dit avoir traité une information sur des exactions commises par des Mai Mai UPLC dans le groupement des Moignés. Ces menaces sont intervenues après la diffusion de ces informations sur l'antenne de sa radio sur place à Byamboué dans le groupement des Mandia. Un acteur de la société civile du groupement des Moigny voisins, qui a requis l'anonymat, confirme les faits et affirme être victime des mêmes menaces qui l'ont également contraint à vivre en cachette. Nous n'avons pas réussi à avoir la réaction des autorités administratives et sécuritaires de la place. Pour sa part, la présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Nord Kivu, condamne ces actes qui portent atteinte à la liberté de la presse et d'expression. Rosalie Zawadi appelle les autorités compétentes à protéger les journalistes dans l'exercice de leur métier, mais aussi demande à ces derniers de veiller à leur propre sécurité en évaluant les risques des informations diffusées. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
C'est en principe ce mardi que la commission ad hoc chargée d'auditionner le député national Daniel Safou va rendre son rapport à l'Assemblée nationale. Poursuivi pour incitation à la haine tribale, c'est en fait aujourd'hui que l'élu d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi attend la décision de la chambre basse du Parlement sur la levée ou pas de ses immunités. Alors qu'il a réapparu hier lundi à Kinshasa pour son audition à l'Assemblée nationale, Daniel Safou ainsi que le député Germain Mutombo ont échappé à un enlèvement par des hommes en armes, dénonce le parti de Moïse Katumbi. Des détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Dans une déclaration lundi tard dans la soirée, le parti de Moïse Katumbi dénonce la tentative d'enlèvement des députés Germain Mutombo et Daniel Safou. Gratien Irachan.
Honorable Daniel Safou était invité à la commission et quand il rentrait, il a été pourchassé par une bande de personnes qu'on n'a pas pu identifier, mais en fait il y avait 3 véhicules et 3 motos qui l'ont pourchassé et il a réussi à s'enfuir. Malheureusement, nous avons appris que sa famille a été visitée par ces inconnus-là. Sa résidence a été vandalisée. Les flats où il était habitué à réunir ses militants a aussi été vandalisé et nous avons même appris qu'il y a même les gérants de cet hôtel là qui a été arrêté et donc on dénombre 4 personnes arrêtées au total. Nous sommes vraiment en danger, l'opposition.
Cette dénonciation intervient alors que le député Daniel Safou attendait ce mardi la décision de l'Assemblée nationale d'élever ses immunités ou pas afin d'être mis à la disposition de la justice. L'élu de Kinshasa est reproché d'avoir stigmatisé le peuple Luba lors d'une émission samedi 20 mai dernier sur le plateau de la télévision. Son compagnon, le député provincial Mike Mukebayi, poursuivi pour la même infraction, est aux arrêts depuis le dimanche 21 mai dernier.
Une mission exploratoire électorale de l'Union européenne s'est entretenue hier dans Kinshasa avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Conduite par Mathilda Chedwin, chef de délégation adjointe chargée des sections politiques, presse et information au sein de la délégation de l'Union européenne en RDC, la mission a examiné en profondeur avec le président de la CENI et son équipe les possibilités et si les conditions sont réunies d'envoi d'une mission d'observation électorale pour les scrutins à venir en RDC. D'après Vincent Ringenberg, spécialiste des questions d'observation électorale et de démocratie, ils ont reçu des amples explications sur le déroulement du processus électoral et les avancées réalisées jusqu'à maintenant. On l'écoute dans cet extrait que nous propose Jacques-Yves Molima.
Je viens de rencontrer le président de la CENI dans le cadre de la mission exploratoire électorale de l'Union européenne ici. Cette mission, en fait, a pour objectif de voir si les conditions sont réunies pour déployer une mission d'observation électorale au Congo pour les prochaines élections prévues en décembre 2023. Donc dans ce cadre, on a échangé avec le président Kadima et puis son équipe pour expliquer le contexte de notre mission et en savoir un peu plus sur le processus électoral et les avancées accomplies jusqu'à maintenant et les défis qui s'annoncent. Le but, c'est surtout de voir si les conditions sont réunies pour que l'Union européenne envoie une mission d'observation électorale, si nous avons une valeur ajoutée. Si une mission d'observation électorale en décembre 2023 est quelque chose qui serait viable, quelque chose qui serait utile et quelque chose qui serait souhaitable pour la RDC et pour sa démocratie.
Question orale avec débat adressé au ministre des Mines. Le député national Jean-Baptiste Moïndo Kasekwa veut avoir des réponses sur la délocalisation anarchique des populations dans les Lualaba par les exploitants miniers. L'élu du Nord Kivu dénonce les violations graves des droits humains à travers ces délocalisations qui paupérissent davantage la population. Jean-Baptiste Moïndo Kasekwa demande au président de l'Assemblée nationale de transmettre dans l'urgence la question adressée au ministre de Mines afin qu'un débat citoyen soit organisé à l'Assemblée nationale pour des mesures correctives. Jean-Baptiste Moïndo Kasekwa est au micro de Michel Kifindangoy.
Le déplacement des communautés locales par les entreprises minières en province de Lualaba est à la base des graves violations des droits de l'homme. Les habitants de quartier Jekamine Kolwezi, des villages Pierre Muteba, Tchaboula, Chizouza, sont victimes soit des pertes de terres arables, soit des pertes d'habitations, sans indemnisation juste et équitable, raison pour laquelle j'ai adressé une question orale avec débat à Madame le ministre des Mines, parce qu'il est inacceptable que des populations propriétaires de terres soient réduites à l'extrême pauvreté, alors que les sociétés qui exploitent le minerai ne cessent de trouver du trésor dans ces terres héritées de nos ancêtres.
Et puis le député national Toumba Tiabola Bintou a présenté à la plénière hier lundi à l'Assemblée nationale une motion d'information relative au préavis de grève dans le secteur de la santé. L'élu de Katanda au Kasaï oriental qui a fait savoir à la représentation nationale que les professionnels et les paramédicaux de ce secteur ont annoncé commencer leur mouvement de grève demain mercredi, a appelé le gouvernement à honorer les engagements pris à Biboua. Ce prestataire regrette que jusqu'à ce jour, les ministres de la Santé, du Budget, des Finances et de la Fonction publique n'ont pas mis en œuvre les instructions du Premier ministre pour décanter cette situation, a précisé les députés. On écoute Ntoumba Tiabola Bintou.
Nous avons fait cette motion d'information pour interpeller notre gouvernement à prendre en compte les revendications des professionnels de santé et autres administratifs en mettant en œuvre les différents accords signés entre les bandes syndicales et le gouvernement. Ceci pour éviter les grognes sociales pendant cette période où la République se dirige déjà vers le quatrième cycle électoral du 20 décembre 2023. Et surtout pendant ces moments où les programmes de couverture santé universelle du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, est en train d'être mis en œuvre. Un programme salutaire pour toute la population congolaise et surtout les plus démunis qui bénéficient déjà de ces programmes de couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité et la prise en charge des enfants congolais qui doivent bénéficier des soins de qualité. Nous avons demandé à notre bureau ainsi qu'à toute la représentation nationale de signifier à notre gouvernement de faire diligence pour rencontrer les revendications des professionnels de santé afin d'empêcher ces mouvements de grève en gestation qui risquent de perturber énormément les programmes de couverture santé universelle.
Au sud Kivu, à Bukavu, les enfants victimes d'abandon parce qu'accusés de sorcellerie vivent dans la précarité. C'est ainsi que l'unité protection de l'enfant et lutte contre les violences sexuelles est basée sur le genre de la police de la MONUSCO a décidé de célébrer la fête des mères avec ses enfants jugés vulnérables. L'activité s'est tenue au foyer Ekabana qui héberge ses enfants dans la commune de Kadutu à Bukavu ce week-end. Des tenues de sport ont été remises aux enfants et des pagnes à leur mère, grand-mère et aux encadreurs des enfants. Rachel Kessembangou, reportage.
63 enfants, une dizaine des grands-mères, jeunes mères et encadreurs du centre Ekabana ont pris part à cette activité non seulement festive, mais aussi de sensibilisation sur les aspects de la protection des enfants, leurs droits fondamentaux et les violences sexuelles et basées sur les genres. Sœur Natalina Isela, coordinatrice du foyer Ekabana.
C'était pour se réjouir, surtout avec les filles mères, mais aussi avec les enfants d'ici. Vous avez vu comment les enfants aussi étaient très contents parce que les enfants aiment la fête. Pour ce que la fête a apporté, c'est la joie.
Voir le sourire aux lèvres de ces enfants et de leurs encadreurs était le but de cette unité de la composante police MONUSCO Bukavu. UNPOL Valérie Marcoux.
Donc on voulait souligner tout le bonheur qu'on pouvait donner à ces enfants-là. Et les mamans, les tatés qui prennent soin des enfants que les jeunes filles mères ont abandonnés, leur gros travail et leurs grands efforts qu'ils font pour ces enfants-là et tout l'amour qu'ils donnent. Aujourd'hui, on a décidé de fêter ça, de remettre des pagnes, des tenues de sport, des cahiers aussi, des bonbons.
Signalons qu'au terme de cette activité, un réseautage des femmes mères a été mis en place. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Trois intellectuels sénégalais de renom ont imputé les récents accès de violence dans le pays à la dérive autoritaire du président Macky Sall et au projet qu'il lui prête de briguer un troisième mandat en 2024. La situation que vit actuellement notre pays résulte de la dérive autoritaire du président Macky Sall, disent Mohamed Mbougar Sarr, Félouine Sarr et Boubacar Boris Diop dans une tribune publiée dans la presse et sur les réseaux sociaux. Et puis le président angolais João Lourenço a accueilli le premier ministre portugais Antonio Costa à Luanda. À l'occasion de cette visite de deux jours, plusieurs ministres des deux gouvernements ont signé un total de 13 accords allant du financier au juridique. Le premier ministre portugais a annoncé une augmentation des investissements portugais en Angola afin d'accompagner le pays dans la diversification de son économie.
L'invité
de ce journal est la directrice pays de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Nathalie Kambala parle de plusieurs boîtes à plaintes placées dans les lieux publics à Kananga, au Kasaï central, pour dénoncer des cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Nathalie Kambala en parle dans cet entretien avec François Kadima.
Madame Nathalie Kambala, bonjour.
Bonjour.
Le FMDI a décidé de placer plusieurs boîtes de plaintes dans des lieux publics. Pourquoi ?
C'est un mécanisme de signalement de cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre, parce que vous savez que c'est depuis longtemps que nous sommes dans cette lutte de réduire sensiblement ces cas de violences sexuelles et aussi voir dans quelle mesure il y aura des réponses de qualité. Mais on a compris que depuis qu'on est en train de nous battre, toutes les structures, les acteurs de lutte, pour appuyer les survivantes, le bénéficiaire, soit les victimes potentielles, on a compris que la dénonciation continue à poser des problèmes. Alors avec le BCNUDH, dans le projet d'appui d'accompagnement juridique et judiciaire, nous avons commencé par former les acteurs clés locaux sur les aspects de la protection des femmes et des filles dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, et aussi leur montrer comment ils peuvent identifier le cas, les dénoncer, soit les orienter à des circuits de prise en charge, et aussi voir dans quelle mesure on peut mettre de stratégies avec les leaders communautaires pour qu'à leur niveau, qu'ils prennent à bras le corps la protection de leur communauté, juste à les orientant à des instances de prise.
Mais la dénonciation pose problème à quel niveau ? Les gens ne veulent pas vous rapporter de cas. Qu'est-ce qui se passe réellement ?
Vous savez d'abord que la culture kasaïenne ici ne donne pas la possibilité à la femme mariée de dénoncer le cas. Même la fille qui est à la maison. L'effet déjà d'aller dénoncer comme ça un cas de violence sexuelle, donc pour la personne, elle se met en danger. L'entourage peut la stigmatiser ou la rejeter. Et aussi, c'est une façon de diminuer la chance de mariage pour les jeunes filles. Et pour les femmes mariées, c'est une façon de diminuer la chance de rester dans la vie conjugale. Alors, on a préféré d'abord de le faire anonymement pour recueillir un peu, parce que la dénonciation, elle est anonyme. On n'a pas besoin de savoir la personne qui dénonce, mais on a besoin de connaître la victime et aussi peut-être le bourreau, et quel besoin qu'a la victime et comment on peut l'aider à aller prendre en charge, à l'orienter à des soucis de prise en charge. Voilà pourquoi on a mis, et c'est rapprocher aussi des communautés. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent loin de nos bureaux, loin des structures de prise en charge, loin de barreaux, loin de parquets, loin de police, loin des hôpitaux. Alors tout ça, c'est parmi aussi des barrières qui ne permettent pas aux femmes et aux jeunes filles d'aller dénoncer. Voilà pourquoi nous voulons nous rapprocher à nos communautés et aller installer ça dans les places publiques, surtout dans les cours royales, parce que la plupart des gens pensaient que mettre ça dans le cours royal, c'est vraiment un danger, parce que le chef ne voudront pas que les gens viennent accuser les autres membres de leur communauté. Par contre, cette fois-ci, c'est une façon d'impliquer le chef, de s'approprier la lutte, d'orienter, protéger leur communauté en les orientant à des structures de prise en charge.
Alors, comment ça va se passer dans les dénonciations ? Les gens vont déposer ces plaintes en gardant l'anonymat.
Nous avons mis les boîtes à plaintes. Ce sont des boîtes, des petites caissettes qui ont des cadenas. Mais au-dessus de la caissette, il y a un petit espace pour introduire une lettre. La lettre, elle est écrite dans toutes les langues nationales. Notre souci, c'est avoir l'information des personnes qui abusent des femmes et des filles et dans la personne qui a subi toutes ces atrocités pour la prendre en charge. Si c'est la victime elle-même qui veut mettre ses identités pour la prendre en charge, tant mieux, il n'y a pas de problème. Si c'est le parent de la survivante, si ce sont les membres de la famille qui veulent dénoncer, mais nous ici, par peur que la personne elle-même vienne dire que voilà, pour que je sois témoin, voilà, c'est moi qui ai dit, il y a ça. Nous voulons que les dénonciations peuvent être anonymes, mais les faits peuvent être réels avec les identités et les adresses exactes pour nous permettre la prise en charge.
Alors, ces dénonciations, c'est pour quels résultats ?
Nous, déjà, c'est une façon d'aider les survivantes à les prendre là où ils sont et les amener à des structures de prise en charge. Deuxièmement aussi, nous voulons aider ces survivantes-là pour comprendre les taux de recrudescence de cas de violences sexuelles dans nos communautés. trouver. Parce que ça existe, mais c'est un peu vrac. Il y a des études, la dernière étude, c'était en 2021, qui a donné un peu des taux de cas de violence dans des zones de santé. Mais nous, nous voulons aller sur ces bases-là, aujourd'hui, pour nous rassurer où est-ce qu'il y a le danger.
Madame Nathalie Kambala, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de ce journal, la directrice pays de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral. Nathalie Kambala a été interrogée à Kananga par François Kadima. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.